Très rapidement, vous le savez, nous avons deux types de nouveaux anticoagulants. Ça, c'est le schéma de la coagulation. Premier type de nouvel anticoagulant de DOAC, les anti-2A ou antithrombines. Et le deuxième type de nouveaux anticoagulants sont les anti-10A qui vont agir contre le facteur 10 activé directement sans passer par l'intermédiaire de l'antithrombine. Voilà les quatre qui sont disponibles suivant les pays. Dabigatran est donc un anti-2A. Alors retenez les demi-vies parce qu'on va beaucoup réfléchir sur les demi-vies. Ça, c'est des demi-vies qui viennent habituellement des essais, souvent de phase 1. Elles sont extrêmement variables d'un patient à l'autre. Donc dabigatran, c'est une prodrogue. C'est pour ça que vous voyez que la oral bioavailability, la disponibilité est faible, mais c'est une prodrogue pour les autres. Voilà. Les deux grands éléments sont d'une part la clairance rénale, très élevée pour dabigatran, qui est à élimination rénale majoritaire. Et le deuxième élément important, bien sûr, ce sont ces demi-vies. Alors avant de passer à la prise en charge et à la réversion des nouveaux anticoagulants, il y a quelques remarques préliminaires à faire qui vont nous guider. D'abord, la véritable demi-vie du produit chez le patient n'est jamais connue. Vous avez vu que ça peut être variable, hein, ça peut aller de 5 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures, mais chez le patient que vous traitez, vous ne connaissez pas la demi-vie du produit. Ça peut changer suivant les drogues, on l'a vu, suivant les produits, et ça peut changer surtout suivant la fonction rénale. Donc, on est obligé de faire une approximation. Deuxième élément, la seule drogue, alors je n'ai pas de conflit d'intérêt hein, avec aucun de ces laboratoires. La seule drogue qui a un antagoniste spécifique, c'est le dabigatran, dont l'antagoniste est un anticorps monoclonal qui s'appelle idarucizumab ou Praxbind. Troisième élément, pour les anti-10A, il n'y a pas d'antagoniste spécifique. Il y a un produit en développement qui s'appelle Andexanet, mais qui n'est pas encore disponible. Et donc, les seules possibilités sont d'utiliser les concentrés de complexes prothrombiniques, soit simples, avec du facteur 2, 7, 9 et 10, soit activés, c'est ce qu'on appelle le FEBA. Enfin, et je l'avais déjà annoncé, deux paramètres vont intervenir pour choisir la stratégie en termes de périopératoire. D'une part, le risque hémorragique de l'intervention, ce n'est pas la même chose de faire une chirurgie, une neurochirurgie et de faire l'exérèse d'une tumeur cutanée. Et deuxièmement, le degré d'urgence. Ça avait été deux paramètres essentiels. Donc ce que je vais vous donner, ce sont des propositions qui viennent du groupe, un groupe auquel je participe, dans lequel il y a des anesthésistes, des cardiologistes et autres. Ce sont des propositions, je n'appellerai pas ça des recommandations, parce que comme ça s'est très bien développé tout à l'heure, les recommandations, ça doit venir d'evidence-based medicine. Or, nous n'avons pas de preuve définitive de ce que je vais vous dire. Alors, quelles recommandations est-ce qu'on peut faire? Premier point, si l'on considère les patients sous anti-2A, sous dabigatran, c'est celui qui a la plus longue demi-vie, dabigatran, 14-17 heures, élimination rénale majoritaire, un antagoniste, l'idarucizumab. Dabigatran augmente le TCA, mais le TCA n'est pas utilisable en pratique courante chez ces patients-là. Le temps de thrombine, qui est un test que nous connaissons depuis longtemps dans nos laboratoires, est très sensible à dabigatran. Si vous avez un temps de thrombine normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de produit circulant, le temps de thrombine. D'autre part, on peut mesurer la concentration de dabigatran avec un test qui dérive du temps de thrombine, qui s'appelle le diluted thrombin time, le temps de thrombine dilué, et ça donne une évaluation très précise de la concentration pondérale. Enfin, deux paramètres vont vous aider à décider pour le patient que vous avez en face de vous. Le premier, c'est la clairance de la créatinine. Donc, à mon avis, ne mettez jamais un patient sous nouveaux anticoagulants sans avoir la créatinine. Elle va vous aider non seulement pour le patient, mais pour la suite. Donc, ayez la créatinine de ces patients. Et deuxièmement, un paramètre important que l'on ne connaît pas toujours, qui est le temps écoulé depuis la dernière prise du produit, puisque vous avez vu que ce produit a une variation, donc ce qu'on appelle le TLA, ou Time Since Last Administration. Alors voilà juste un schéma du mode d'action de l'antagoniste. Hein. Alors le dabigatran, c'est la toute petite molécule. Hein. Attends, je ne vais pas tourner. Voilà, le dabigatran, c'est ça. Hein. C'est ça le dabigatran, et l'idarucizumab, c'est la grosse molécule. L'efficacité de ce produit est indiscutable, donc ça c'est sur des tests biologiques. Vous voyez qu'on a utilisé ce que je vous ai dit, le diluted thrombin time. Et vous voyez que dès que l'on injecte le Praxbind, vous avez une disparition de l'efficacité biologique d'abigatran. Donc ça, c'est clair, c'est démontré. Au niveau biologique, l'effet est indiscutable. Au niveau clinique, il y a eu un essai clinique qui était assez intéressant, qu'on peut critiquer, mais on n'a pas tellement le temps. Mais apparemment, ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à partir de ces armes dont on dispose ? Premier cas, et je vais à chaque fois l'annoncer comme ça, alors ça fait un peu compliqué, les diapositives seront à votre disposition, donc vous pourrez les reprendre, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout ça. En cas d'hémorragie à très haut risque, de chirurgie à très haut risque chirurgical, ou bien de chirurgie où vous ne pourrez pas contrôler l'hémostase, par exemple la neurochirurgie, vous ne pouvez pas contrôler, ça saigne ou ça ne saigne pas, et voilà. Ou bien la chirurgie du foie, et sur ces chirurgies-là, si vous avez une concentration de dabigatran qui est supérieure à 30, c'est-à-dire qu'il y a du dabigatran qui circule, ou bien qu'on ne connaît pas la concentration, on va agir de la même façon. Dans l'urgence, on ne va pas s'amuser sur quelqu'un qui doit avoir une neurochirurgie à faire des dosages et à retarder le geste. On fera l'ilacirucizumab. S'il n'y en a pas, s'il n'est pas disponible, on fera du concentré complexe prothrombinique. En l'absence d'urgence, à ce moment-là, eh bien, il vaut mieux différer la chirurgie. Et à ce moment-là, ce que l'on vous conseillera, c'est de faire le dosage d'abigatran, parce que ça vous donnera une idée de la demi-vie entre le moment de la dernière prise et le dosage que vous avez. Vous aurez une idée de la décroissance et vous pourrez calculer le moment où il n'y aura plus d'abigatran circulant. Deuxième type de chirurgie, de la chirurgie à haut risque. Donc, c'est une chirurgie qui peut saigner, mais où l'hémostase peut être contrôlable et où il y a moins de risques, donc. Exemple, une péritonite, une chirurgie orthopédique. Et puis, si vous avez une concentration d'abigatran élevée, il n'y a pas de zone thérapeutique définie pour d'abigatran puisque ces produits ont été développés sans surveillance biologique. Mais considérez que la zone d'efficacité est habituellement comprise entre 30 et 200 nanogrammes par ml. Donc, soit la concentration est élevée ou bien on ne la connaît pas et on a une clearance basse, inférieure à 50 ml par minute, ou bien une dernière prise qui est à moins de 24 heures. À ce moment-là, vous êtes des circonstances où vous devez être très prudent. Si c'est en urgence, vous faites la chirurgie sans doser. Et puis, si ça saigne, vous injectez le produit. Il ne faut pas oublier que ce produit, l'ericidumab, est coûteux et que donc on n'a pas envie de le donner pour rien. Je vous rappelle que dans l'essai clinique qui a montré l'efficacité, 30% des patients ont reçu le produit alors qu'ils n'avaient pas d'abigatran circulant. En l'absence d'urgence, eh bien, on va différer la chirurgie, le temps de laisser le produit s'éliminer. C'est toujours mieux qu'une efficacité pharmacologique. Enfin, sur une chirurgie à faible risque hémorragique, ou bien à risque hémorragique élevé, mais où vous savez que la concentration d'abigatran est faible, ou bien vous savez que le patient a pris depuis plus de 24 heures le produit, donc en grande partie le produit est éliminé, et surtout si vous avez une clairance de la créatinine qui est correcte, ou bien, enfin, dernier point, une chirurgie à très haut risque, mais vous savez qu'il n'y a pas d'abigatran circulant, le temps de thrombine est normal, à ce moment-là, vous faites la chirurgie. Voilà. Encore une fois, c'est discutable. On ne peut pas, dans un très beau congrès comme celui-ci, prendre des cas particuliers pour chaque patient. Mais on a essayé de réfléchir, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a essayé de réfléchir à ce que l'on pourrait proposer en fonction des circonstances. On va avoir à peu près les mêmes démarches pour les patients qui reçoivent apixaban, edoxaban, rivaroxaban, que je vais appeler l'exaban, pour ce que c'est plus court. Donc l'exaban, quelle grande recommandation ? D'abord, la demi-vie pour l'exaban est extrêmement variable. Ça va de 5 heures à 15 heures, du simple au triple. Donc vous ne savez rien chez le patient, puisque vous n'avez pas de biologie. Vous ne savez pas la demi-vie chez le patient. Intérêt par contre, ces produits sont pour la plupart à élimination rénale moindre, 30% environ. Pour la plupart des produits, compte 80% pour dabigatran. Troisième élément, il n'y a pas d'antagoniste spécifique. Il y a un produit qui est développé, qui s'appelle Andexanet, mais qui n'est pas disponible actuellement. Donc, les seuls produits pour lesquels nous pensons qu'il y a une efficacité, ce sont les concentrés de complexe prothrombinique, ce qu'on appelait avant le PPSB, ou bien les concentrés activés, ce qu'on appelle le FEIBA. Ils ont de l'intérêt sûrement. Autre point, les patients sous anti-DISA ont un prothrombin time allongé. Il n'y a aucune application clinique parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Par contre, comme pour dabigatran, nous avons au laboratoire des tests pour vous donner le taux exact d'anti-DISA en pondéral. Enfin, deux paramètres vont nous aider, comme tout à l'heure, la clairance de la créatinine et la date de la dernière prise. Et on reprend les propositions qui sont pratiquement calquées sur celles du dabigatran avec le fait qu'on n'a pas vraiment d'antagoniste spécifique. Et donc, encore une fois, pour une chirurgie à très haut risque, surtout si l'hémostase ne peut pas être contrôlée, et puis une concentration supérieure à 30 nanogrammes, donc ça veut dire qu'il y a du produit circulant, ou bien que l'on ne connaît pas la concentration. Si on ne connaît pas la concentration, on va considérer qu'il y a du produit circulant, donc on va antagoniser si on est en urgence, donc faire des concentrés de complexe prothrombinique, ou bien si ce n'est pas en urgence, retarder l'intervention, parce que quand même c'est des situations qu'on ne contrôle pas très bien, et quand ça saigne sous nos anticoagulants, c'est très très embêtant. Pour une chirurgie à haut risque hémorragique, dans laquelle on peut contrôler l'hémostase, c'est-à-dire qu'on peut revenir, éventuellement revenir faire un geste chirurgical, donc c'est pas du tout la même chose. Si on sait qu'il y a une concentration de Xaban qui est élevée, ou bien on ne la connaît pas, on va considérer qu'elle est élevée, surtout s'il y a une clairance qui est basse ou une prise inférieure à 24 heures. Donc, je veux dire, dans ces chirurgies où l'on pense qu'il y a du produit circulant, probablement pas en quantité excessive, là encore, en urgence, on va antagoniser avec notre complexe prothrombinique. Si on n'est pas en urgence, si on peut différer, c'est beaucoup mieux de différer. Enfin, pour les low hemorrhagic risk, les chirurgies à faible risque hémorragique, à ce moment-là, ou bien celles où il y a un risque élevé, mais on sait qu'il y a très peu de produits circulants, moins de 50, ou bien la concentration n'est pas connue, mais on sait que la créatinine est bonne et on sait que la dernière prise est lointaine, donc il y a probablement très peu de produits circulants, ou bien c'est une chirurgie à très haut risque et une concentration, il n'y a pas de produits circulants, on fait de la chirurgie. Si vraiment ça saigne, on fait du PPSV. C'est pas idéal comme démarche, mais on a besoin de guidelines comme ça et on les a diffusées en France, elles ont été largement acceptées. Dernier point, en l'absence, dans une chirurgie non urgente chez un patient traité par DOAC, eh bien, ne vous embêtez pas, vous différez de 24 heures avant la procédure. En gros, en 24-48 heures, le produit est éliminé, pas de relais. Et je vous signale que maintenant, le message qu'on a, c'est pas de relais. Les relais avec les parines et tout ça, on sait que c'est la période où ça va le plus saigner. Donc, pas de relais, pas de dosage, ça sert à rien. On fait la chirurgie puisqu'on est différé de 48 heures, on sait qu'il n'y a pas de produit circulant. Et vous reprenez le traitement si c'est nécessaire, au moins 6 heures. Plus de 6 heures après la procédure, parce qu'il faudra bien reprendre le traitement si c'est un patient qui le nécessite. J'en arrive à un autre point qui est l'absence de chirurgie, une chirurgie non urgente chez un patient traité par DOAC. Là encore, on va s'aider de la clairance de la créatinine, du Cockcroft, etc. Pas de relais, pas de dosage, etc. Donc, si on veut résumer ça, et encore une fois, ce sont des propositions, vous pourrez les garder, vous en faites ce que vous voulez, on ne peut pas s'en souvenir, mais c'est réfléchi. D'une part, les anticoagulants sont de plus en plus souvent utilisés, donc vous serez de plus en plus souvent confrontés à ça. Alors, je n'ai pas pu aborder le problème des biopsies transpariétales, des ponctions lombaires et tout, parce que ça entre dans le même cadre. Hein. Une ponction lombaire chez une méningite, pour une méningite avec un patient sous DOA, qu'il faut y réfléchir. L'absence de suivi biologique, c'est un avantage, bien sûr, et on l'a vu, parce que c'est plus facile, mais c'est un handicap lorsqu'on est confronté à une situation d'urgence, puisque vous ne savez rien, ce patient. Vous ne savez pas s'il a 30 nanogrammes, 50, 200 ou 400. Vous ne savez rien du tout. Vous ne connaissez pas la demi-vie chez le produit. Donc, dès qu'on est en situation, au quotidien, c'est parfait. Dès qu'on est en situation d'urgence, on a un problème. Les propositions ou les recommandations ont un très faible degré d'évidence. Hein. Je ne l'ai pas quantifié puisque ce ne sont pas des recommandations, mais on n'arriverait jamais à du 1A, on aurait du 2B, 2C, voire 3, c'est-à-dire consensus d'experts. Donc, il va falloir faire avec ça. Les vrais essais cliniques, ceux qui pourraient nous donner des recommandations de grade 1A ou 2A, etc., il n'y en a pas, et je ne crois pas qu'il y en aura. Donc, nous allons devoir faire avec ce genre de propositions. Et si vous voulez revoir de façon plus précise toutes ces recommandations, je vous conseille d'aller sur le site du GIHP. C'est ce groupe de travail dans lequel on est une quarantaine des meilleurs anesthésistes, cardiologues, hématologues et tout. Et on a fait ces propositions sur ce site. Il suffit de vous inscrire, mais c'est gratuit. Et vous retrouverez toutes ces propositions sur le point. Et si vous ne pouvez pas vous confronter, vous allez être confronté au cauchemar du chirurgien dans ce type de circonstances. C'est un bloc opératoire. Voilà, je vous remercie.
Thank you, Professor Schwed. Now the floor is open for the questions.
Oui, merci pour cette présentation claire. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut compter sur le temps de thrombine, au moins pour voir si le malade va saigner, pas pour contrôler l'efficacité, c'est-à-dire avant d'envoyer le malade à un geste qui
risque de saigner ? Pour l'abigatran, si vous avez un temps de thrombine normal, vous êtes tranquille, il n'y a pas d'abigatran circulant. C'est moins vrai pour l'anti-DISA ou le prothrombin time chez les patients sous anti-DISA. Mais pour le temps de thrombine pour l'abigatran, c'est clair, c'est très sensible. Donc s'il y a un temps de thrombine normal, vous savez que vous pouvez y aller pour n'importe quel geste opératoire.
Et pour l'anti-DISA, on peut compter sur l'anti-DISA, l'anti-thrombine?
Alors, attention, parce que l'anti-DISA, alors là, c'est un peu le biologiste qui parle, il faut pouvoir l'étalonner avec ces drogues. Donc l'anti-DISA qu'on utilise pour les héparines de bas poids moléculaire n'est pas vraiment utilisable là. C'est vrai que si vous avez un anti-DISA qui est à zéro, il y a peu de chances qu'il y ait du produit circulant quand même. Donc on pourrait se servir de ça pour savoir si le produit est éliminé, puisque c'est ça qu'on cherche quand même. C'est bien. Merci, à tout à l'heure.